Nous, de notre côté, on est toujours au Théâtre du Grand Orme à Fin pour cette journée de clôture du festival Va jouer dehors. Et je suis actuellement avec Emmanuel Bardon, donc, qui est le directeur artistique de l'ensemble Canticum Novum, qui va jouer ce soir à partir de 17h30. Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler de cet ensemble, nous le présenter et présenter le spectacle de ce soir ?
Alors, bonjour à tous. Très heureux d'être dans ce beau département et dans cette belle aventure qui est le festival Va jouer dehors, qui correspond vraiment à l'identité assez singulière de l'ensemble. Donc Canticum Novum est un ensemble qui existe déjà depuis de nombreuses années. C'est un projet qui est né dans notre ville à Saint-Étienne, qui est une ville éminemment cosmopolite et interculturelle. Et donc tout le projet de l'ensemble a été vraiment de partir de la rencontre humaine, interculturelle, et en particulier dans des périodes de répertoire patrimonial. Donc on est vraiment sur le répertoire de musique ancienne, musique médiévale, musique renaissance. Et l'idée a été de re-questionner aujourd'hui l'interculturalité, le vivre ensemble, le faire ensemble, en utilisant comme matière des répertoires de nos mémoires communes, de nos mémoires individuelles, et d'essayer ensemble, au travers du partage de ce que l'on est et d'où l'on vient, de pouvoir questionner, se faire ensemble et vivre ensemble. Donc au travers de répertoires, pour le coup, qui nous viennent d'Europe occidentale, des Balkans, et puis l'ensemble maintenant a évolué vers d'autres terres, parce qu'on on vient de sortir un disque autour de l'Arménie, par exemple. Et là, cet après-midi, c'est un programme autour de l'Empire ottoman. On a voulu suivre l'exil des séfarades espagnols qui ont fui l'Espagne à la fin du XVe siècle et se sont installés pour beaucoup d'entre eux dans l'Empire ottoman. Et donc on a voulu revivre un petit peu ce choc de culture qu'ils ont pu vivre en arrivant dans l'Empire ottoman et de recréer un programme autour de ça, donc avec du coup des musiciens qui sont issus de différentes cultures, dont Adjer, par exemple, Gülay Adjer Turuk, chanteuse turque, qui chante avec nous cet après-midi. Et puis d'autres instrumentistes, on a Spiro Salaris qui vient de Grèce, et puis d'autres musiciens français. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire ensemble en s'appropriant la culture de l'autre et la faire vibrer au filtre de sa propre culture, sans la singer, mais en étant nous-mêmes aujourd'hui.
D'accord. Et est-ce que c'est une constante dans vos spectacles d'avoir cet aspect historique et presque narratif, de raconter une histoire en plus de jouer de la musique ?
Pas obligatoirement tous les programmes. Par exemple, On tente d'avoir un prétexte historique de temps en temps pour pouvoir justement le rattacher à l'histoire, le rattacher à la mémoire. Souvent, ça permet aussi, dans le travail, que ce soit avec le public ou tout le travail de médiation à côté qu'on a mis en route depuis de nombreuses années aussi à Saint-Étienne, c'est de nous reconnecter à ce qu'on est et d'où on vient. C'est vraiment ça qui est important. Après, par exemple, le programme arménien qu'on vient de créer, c'était une manière de commémorer le centenaire du génocide arménien, mais le faire au travers d'un moment historique où la couronne d'Arménie a été française, en tout cas a été reliée à une famille française, au même titre que la couronne de Chypre et la couronne de Jérusalem. Et donc ça nous permettait, au travers des répertoires de cette période-là, de pouvoir parler autrement de la culture arménienne et pas la prendre uniquement sous l'entrée commémoration triste d'un génocide, mais plus par la diversité et la richesse interculturelle de cette culture incroyable, et puis de la jouer et de le faire avec des Arméniens puis d'autres musiciens aussi. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de mener dans chaque programme, de le relier à un moment de l'histoire humaine, mais on n'est absolument pas dans de la reconstitution historique ou dans l'archéologie musicale, parce qu'on prend quelques libertés aussi par rapport à l'instrumentarium, et ne serait-ce que de s'approprier des répertoires qui ne sont pas issus de notre propre culture et de le jouer avec nos instruments. Donc on va jouer de la musique ottomane avec une flûte à bec, une vielle et puis un luth occidental, mais accompagné pour les pièces de notre répertoire par des orientaux aussi. Bon, voilà, on a ce faire ensemble interculturel qui est vraiment présent depuis le début de l'ensemble et le début de l'aventure.
D'accord, et d'où est-ce que ça vient cette volonté de métissage et qu'est-ce que ça apporte à la musique ?
Je crois que ça vient du fait que je vis dans une ville où j'ai un quotidien et un partage avec énormément de cultures différentes dans le quartier dans lequel je vis. Et que de lancer une aventure musicale, pour moi, il m'est apparu évident que le socle vraiment principal de notre boulot, c'est de transmettre. Et cette transmission, elle se fait évidemment dans les grandes salles, dans les grands festivals. On a la chance de monter sur des grandes scènes européennes. Donc ça, c'est incroyable, c'est un événement incroyable. Mais avant tout, on se doit de transmettre à notre petit cercle et aux gens qui partagent notre quotidien. Les gens qui partagent notre quotidien, ce ne sont pas des musiciens. C'est des gens de tous les jours. C'est mes enfants, c'est ma famille, c'est le facteur, le boulanger du coin, les copains d'école, des enfants. Et donc ce partage-là, il est essentiel, il est nécessaire. Et puis surtout, 95% des gens qui m'accompagnent dans mon quotidien ne sont pas du tout musiciens. Donc c'est à l'écoute de ça et au regard du territoire sur lequel je vis que le projet de Canticum Novum a démarré. Donc finalement, c'est vraiment... l'humain qui est le démarrage de tout partage et de toute transmission. Moi, après, il s'avère que je suis musicien, je partage avec la musique, mais d'autres vont partager avec d'autres choses. Et un boulanger va partager en ayant un amour de ce qu'il fait, en tout cas un bon boulanger, on va dire. Mais là, l'amour de ce qu'il fait, ou un producteur, quelqu'un qui travaille la terre, il va transmettre ça et il va d'abord le transmettre en circuit court. Voilà. L'idée, c'était ce circuit court de la culture, voilà, qui fait partie, à mon avis, de ce qu'on devrait apprendre à chaque musicien professionnel quand il démarre le métier. C'est avant tout de transmettre autour de lui et pas de rêver à des paillettes et au feu de la rampe, parce que ça, obligatoirement, ça fait partie de notre métier, puis on le vit, puis c'est extra. Mais c'est pas ce qui va permettre de donner un socle et un avenir d'abord au répertoire qu'on défend, puis d'autant plus quand on ne fait pas de musique actuelle. Moi, je fais pas de rap, je fais pas de rock, je fais pas de musique d'aujourd'hui, même si j'en aime énormément beaucoup d'artistes et les contours. Mais en tout cas, je défends un répertoire de mémoire et donc avec toute la difficulté de continuer à le faire vivre. Si je le fais pas vivre avec mon quotidien, avec ce que je suis aujourd'hui, ça va pas fonctionner.
Et concrètement, comment on intègre cette dimension-là ? Bah voilà, quand on fait une musique qui est peut-être moins accessible, ou comment on fait justement concrètement pour la rendre accessible à ses voisins, à son facteur, comme vous disiez.
Mais ce qui est... C'est marrant parce que cette question-là, elle m'est souvent posée. Et on me la pose souvent quand je vais faire de la médiation dans les écoles, par exemple. On me dit, mais comment... On ne comprend pas comment vous faites pour faire aimer de la musique médiévale aux enfants de 8 ans ou 9 ans. Ils vont s'ennuyer ou ça va être rébarbatif pour eux. Mais comment vous faites ? Je pense que quand les enfants vont venir au concert de musique ancienne, il va falloir les préparer longuement parce que c'est quand même très pointu, etc. Et je réponds à ça, j'ai juste besoin de passer 30 minutes ou 45 minutes avec les gamins et je ne parle pas une seule seconde de musique. La seule chose que je fais, c'est vivre avec. C'est tout. C'est-à-dire, je me présente... Voilà d'où je viens chez vous, on va passer un moment ensemble, je vais partager ce qui fait partie de ma vie et ce qui fait partie de nos mémoires. C'est une manière de parler de nous. Et ensuite, les enfants s'embarquent complètement là-dedans. Alors après, c'est vrai que souvent, on part d'abord du répertoire musical. Mais en fait, moi, je fais de la musique, donc que je fasse de la musique du 12e, du 20e, du 19e ou du 7e siècle, à partir du moment où je la joue aujourd'hui, elle est vivante. C'est bien la musique actuelle parce que je la fais vibrer à travers moi. Donc, je ne suis pas né au 12e siècle et j'ai pas de toile d'araignée, je ne suis pas une momie, quoi. Je suis quelqu'un qui partage aujourd'hui. Et en fait, ça suffit, en fait. Il suffit juste d'être dans un rapport vrai avec les gens. Et on peut adhérer au moins à ses répertoires. Je veux dire, chacun a ses goûts. Hein, si, hein. Mais en tout cas, je sais que tout le répertoire que l'on joue, souvent, on fait beaucoup de monodies. Donc, c'est aussi des mélodies qui sont faciles à retenir. On a l'impression de les connaître. On a l'impression qu'elles sont en nous, même si c'est la première fois qu'on les entend. On les chantonne en sortant du concert. Et en fait, on a uniquement passé un bon moment d'échange humain et de dialogue. Je ne fais que discuter avec les gens et partager avec les gens. Donc ça suffit en fait pour que ces répertoires puissent être entendus. Il n'y a pas besoin de faire plus. Après, qu'on passe du temps pour expliquer, oui, partager. Et on a cette même démarche autant ici, en proximité. Chez moi, à Saint-Étienne, dans les quartiers, ou en milieu rural, dans le Pila, par exemple, où on a un petit festival, qu'au Théâtre de Châtelet. La démarche, elle est la même. L'exigence, elle est la même. Et l'envie simple de partage et entre quatre yeux sans artifice. C'est la constante qu'on essaie d'avoir tous ensemble.
Très bien. On va revenir peut-être dans un instant à cette médiation culturelle que vous faites dans la région de Saint-Étienne. Avant, on va peut-être passer à un morceau pour se rendre compte de la musique que vous jouez. Donc on en a passé un tout à l'heure. Là, est-ce que vous pouvez peut-être présenter le morceau qui va venir ?
Alors, dans les belles aventures qu'on a, il s'avère que hier soir, je suis allé rencontrer un groupe de primo-arrivants qui est accompagné par le CADA à Blois et qui va venir chanter un petit moment de partage avec nous pendant le concert. Et donc, j'ai rencontré Mohamed qui est afghan et je lui dis, tiens, dans un des disques, nous avons eu la chance de pouvoir nous approprier une mélodie afghane ancienne qui s'appelle Darda Manesara. Et c'était un petit clin d'œil à Mohamed de faire écouter cette pièce. Et puis l'interprétation de Canticum Novum qui est juste une résonance du répertoire arménien, parce qu'on n'essaye absolument pas de singer les Afghans, mais de le faire avec ce qu'on est, donc avec notre lecture et notre résonance à nous.
Très bien, on écoute ça.
Thank you.
vient d'entendre Dardamané Sierra, je l'ai bien dit ?
Dardamané Sara.
De l'ensemble Quanticum Novum, je suis toujours avec Emmanuel Bardon, donc le directeur de cet ensemble. On voulait revenir un petit peu sur ce travail de médiation culturelle que vous faites à Saint-Étienne. Vous le faites en tant qu'ensemble ou en tant qu'individu ?
Les deux, mais c'est la médiation est avant tout une démarche individuelle, qu'elle soit au service du collectif, ça c'est essentiel, mais en tout cas c'est avant tout une démarche individuelle, et il faut que ce soit une démarche individuelle. Et chaque musicien devrait individuellement sentir cette nécessité à la médiation et à faire en sorte de transmettre de façon active. Donc effectivement, avec Quanticum Novum, on a dès le tout premier concert à Saint-Étienne, on a tout de suite développé des choses en médiation. Donc on a commencé dans un cadre facile qu'est l'école, parce que on est dans un groupe qui est déjà constitué, puis les gamins n'ont pas le choix de venir travailler avec nous. Donc on a commencé comme ça. Et puis après, depuis maintenant, depuis 2002, donc ça fait 15 ans. Et en 15 ans, en fait, on a été amené à mener des projets de plus en plus ambitieux avec les classes, et puis en dehors, petit à petit, et donc autour de création participative, qui est effectivement sont des projets de musique, mais où on l'ouvre à une expression transversale systématiquement. Donc on l'ouvrait ou à la danse, ou à l'écriture, ou à la vidéo, à la photo, etc., pour essayer d'avoir un peu plus d'objectivité sur les projets. Et chaque projet est un questionnement du quotidien. Donc beaucoup de projets sont sur effectivement cette notion d'interculturalité, de quelle manière on la partage et on la vit dans notre quotidien. La plupart du temps, on essaye de construire ces projets ancrés sur un territoire et qui correspondent vraiment à l'histoire d'un territoire. Donc on travaille avec aussi les travailleurs sociaux, avec sociologues, ethnologues qui vont nous amener à mieux connaître le territoire sur lequel on peut travailler. Donc ça peut être dans certains quartiers populaires de Saint-Étienne. Ça peut être, là par exemple, un projet qu'on vient de mener, c'était à l'abbaye de Noirlac, dans le Cher, autour de l'histoire de ce lieu où, après 1936, ça a été un centre de rétention pour les familles espagnoles républicaines. Et donc, il reste un survivant. Et donc, on a mené tout un projet musical autour de la mémoire de M. Flores, connaissait a vécu une partie de l'histoire de Noirlac, et c'est les enfants du territoire qui ont raconté cette histoire. Donc c'est une manière de s'approprier aussi une partie de son histoire au travers du patrimoine qui peut être sur notre territoire. Et puis de fil en aiguille, d'essayer de replacer cette pratique artistique qui est pour nous importante comme un geste du quotidien, comme un geste qu'on partage sans se poser de questions et qu'on fait naturellement. Au même titre que dans les autres gestes du quotidien que nous avons de façon collective, on a le repas, on a le jeu, on a le travail et l'école, on a tout ce qui est du domaine de l'esprit. Alors ça peut être obligatoirement religieux, mais ça peut être religieux. Je rentre dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée. C'est un geste collectif que beaucoup de familles vivent, hein, et beaucoup d'enfants vivent. Et puis après, c'est aussi la transmission patrimoniale dans une famille. Quelle est ma culture ? Mon grand-père m'a raconté que je venais de tel endroit, etc. L'histoire de ma famille, tout ça fait partie du domaine de l'esprit. C'est un geste qu'on fait et qu'on fait de façon tout à fait naturelle. La pratique artistique aujourd'hui, et elle s'est transformée de plus en plus dans notre pays, à devenir très verticale, où on inscrit notre enfant dans une école de musique, on a un rapport vertical avec l'enseignant, on a un tête-à-tête avec lui, et puis la pratique collective, elle est uniquement quand tu sauras jouer de ton instrument, tu pourras aller jouer avec les copains. Et on a un petit peu gardé et développé ça énormément, et en le coupant d'une partie qui me paraît moi très importante, qui est la partie à l'oralité, quoi. Et le rapport à l'autre et la transversalité, qui est le rapport à l'autre, et on a confronté souvent ce monde de l'oral au monde de l'écrit. Et donc nous, tout le travail a été de retrouver une pratique collective tout en abordant des répertoires différents, de l'oralité ou de musique savante, mais de les transmettre par ce rapport direct et avec l'autre. Et la première pratique que nous avons artistique est une pratique collective. Voilà, et donc on a rencontré des enfants et des familles qui avaient un accès très très réduit à la culture, qui pour le coup étaient très éloignés des institutions culturelles. Et on s'est dit qu'il y avait une nécessité à un moment donné qu'on réfléchisse à pouvoir les accompagner dans leur quotidien en étant des voisins musiciens qui vivons ensemble et qui donc apportons un savoir-faire qui est la musique. Et de créer une structure qui nous permette d'accompagner ces familles en dehors de projets qui ont donc un début et une fin. mais qu'on puisse les accompagner dans la durée. Donc on a créé cette structure qui s'appelle l'École de l'oralité, qui est née il y a 2 ans, et qui est née de... Ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est née de 12 ans de terrain. C'est-à-dire qu'avant d'imaginer qu'on pourrait mener une école et qu'elle vive et qu'elle dure, et puis qu'on puisse aller voir les politiques pour leur dire on a besoin de finances pour continuer, il fallait qu'on arrive avec un savoir-faire et puis des résultats. Parce que autrement, arriver devant les politiques en disant « je vais faire de la musique ancienne médiévale, venez m'aider, je vais dans les quartiers les plus chauds de Saint-Etienne ». Et là, on regarde avec des grands yeux en disant « mais oui, c'est bien, monsieur Bardon, c'est bien. Retournez là-bas, faire votre petite musique ». Voilà. Donc, quand je parle de démarche individuelle, il a fallu m'investir personnellement. Puis il n'y avait pas de moyens, donc pas de finances. Donc on fait les choses. Puis en fait, j'ai fait des milliers d'heures de médiation dans les écoles, dans les quartiers, etc. Puis dans plein de villages en milieu rural. Et on a développé tout ça. Et puis après, au bout de 12 ans de travail, on a eu les retours des premiers gamins qu'on a accompagnés. Donc maintenant, voilà, la boucle, les premières boucles se ferment. Et on a les retours des gamins qui maintenant ont 20 ans et qu'on a eu quand ils avaient 8 ans en classe. Et là, on se dit, OK, c'est bon, on peut continuer parce que les résultats, on les a. Et puis parce que les retours sont juste, et même à des années-lumière de nos espérances les plus optimistes, quoi. On a des retours. Quand je croise dans la rue un gamin j'ai fait chanter le tout premier projet de médiation qu'on a mené à Saint-Étienne. J'ai fait chanter des Cantigas de Santa Maria, un chansonnier chrétien du XIIIe siècle, dans quartier maghrébin, musulman, pour la plupart des gamins étaient de tradition musulmane. Et on a chanté ça avec des romances séfarades juives et avec quelques poèmes de penseurs musulmans. Et on a monté un projet autour de la Semaine des Trois Cultures. Et les enfants sont venus chanter, sont descendus de la colline, parce que c'est un quartier qui est dans une colline. Et en général, ils restent cloîtrés dans leur quartier. Et puis quand ils font quelque chose, on préfère qu'ils restent dans le quartier. Et là, ils sont venus donner leur spectacle dans le cœur de la ville, dans la salle de réception de l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Et pour moi, c'était très important. Et le public, c'était tous les enfants des autres écoles de Saint-Étienne que j'avais en médiation, issus plutôt de milieux ordinaires, on va dire, mais plutôt favorisés, qui donc étaient le public pour voir le travail de ces jeunes. Et ça a été une année incroyable. Et il y a quoi ? Il y a un an ou un an et demi, je me promenais à minuit le soir dans mon quartier. J'ai un petit chien, donc je promenais le chien et là, j'ai un jeune qui me hèle de loin en me disant « Ça va Manu, le musicien ?» Alors, je me retourne, je ne reconnaissais pas, évidemment. Et là, il me dit « J'étais ton élève il y a 12 ans à Montréno, c'est la plus belle année de ma vie, je m'en souviendrai tout le temps. » Il s'est mis à me chanter les chants qu'on avait appris 12 ans avant. Il en avait 20 balais, le jeune. Et là, je lui dis « Voilà, écoute, merci, parce que ce projet avait ouvert la voie et ouvert des horizons incroyables de médiation et de travail. Et puis aujourd'hui, ça ne fait que justifier d'avoir continué et puis maintenant de développer les choses pour qu'on puisse l'ouvrir à la famille, à la cellule familiale et pas uniquement à l'école. Hein. C'était de pouvoir être présent dans la cellule familiale et dans le quotidien de chacun d'entre nous. Quoi.
D'accord, donc à l'instar de votre travail artistique, de composition qui est dans l'ancrage, dans l'enracinement et dans l'ouverture, votre travail pédagogique repose sur la même dualité.
Oui. Ouais. Et puis dans un rapport simple de quotidien, hein, aussi simplement que quelqu'un qui sonne à l'improviste chez moi et qui vient boire un coup ou qui vient manger le repas sur un coin de table, c'est exactement pareil pour partager la musique. Et ça doit être aussi simple et aussi facile.
Très bien. Alors je crois qu'on entend à côté de nous le spectacle du CADA qui va bientôt commencer. Donc merci pour cette belle interview, Emmanuel Bardon. Et à ce soir, donc, à 17h30, pour votre concert avec l'ensemble Canticum Novum. Et nous, on va peut-être rendre l'antenne, laisser les demandeurs d'asile faire leur spectacle et revenir tout de suite après.